Et si nous redevenions humains ? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute !
Bonjour ! Est-ce que je peux mordre mon enfant pour lui apprendre qu'il ne faut pas mordre ? Par exemple, un jour, j'étais dans mon école et j'avais une jeune maman qui m'avait demandé si elle pouvait apprendre la pédagogie et travailler avec les enfants. Un jour, je rentre dans une classe où elle était assise à côté de son fils de 8-10 ans, et elle était en train de lui mettre des coups de poing dans l'épaule. Et là, je la regarde et je dis « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et elle me dit « Il fait ça aux autres, je veux lui montrer ce que ça fait. » Et en me disant ça, elle était en colère, elle avait les yeux qui vraiment lui sortaient de la tête, elle était exaspérée. Et son fils était en train de commencer à pleurer et il lui disait « Tu es méchante. » Donc est-ce que cette « entre guillemets pédagogie » de l'exemple est opérante? Et est-ce qu'elle permet à l'enfant d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même dans notre système de justice, il est assez rare qu'un juge condamne quelqu'un qui a attaqué, agressé à coups de couteau, condamne la personne à recevoir 3 coups de couteau ou 5 coups de couteau, ou à la personne qui a violé, on la condamne à être violée à son tour. En tout cas, ce n'est pas la volonté d'un juge. Puisque lui, il est formé pour donner une peine qui ressemble plutôt au time-out pour le coup, c'est-à-dire va réfléchir, file dans ta chambre un peu, va réfléchir enfermé dans une pièce, mais on ne condamne pas un prévenu à recevoir le préjudice qu'il a lui-même commis. Tout ça est discutable, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Alors pourquoi ? Pourquoi on ne fait pas à une personne ce que l'on ne veut pas, ni qu'il fasse, ni qu'il nous fasse ? Eh bien, dans le cas d'un enfant, d'un petit enfant par exemple, j'ai une amie qui m'a dit récemment, moi, avec mon enfant quand il était petit, comme il mordait les autres, eh bien, je l'ai mordu pour qu'il comprenne ce que ça fait, pour qu'il comprenne ce que ça fait mal. Et peut-être que c'est quelque chose que j'ai dû faire moi aussi quand j'étais une toute jeune maman. Exaspérée par les morsures d'un de mes enfants. Il est possible que je l'ai fait aussi. Je ne m'en souviens pas très bien, mais comme j'ai été moi-même exaspérée, démunie, impuissante et incompétente face au comportement de mes enfants petits lorsque j'étais une jeune maman, il est bien possible que je l'ai fait aussi. Donc je ne suis pas là pour juger ni condamner les parents qui ont ce type d'exploration, qui sont souvent pas des explorations très conscientes et choisies, mais plutôt des impulsions que l'on laisse aller pour en se disant ben, peut-être que je vais arriver à obtenir un certain résultat en faisant ça ou ça. Donc un petit qui mord, peut-être qu'on peut avoir cette impulsion, presque cette compulsion de le mordre à son tour pour lui apprendre ce que ça fait et pour qu'il ressente la douleur qu'il fait subir à l'autre. Alors, pourquoi c'est inopérant et pourquoi l'enfant dont je vous parlais au début dit à sa mère « tu es méchante » ? Eh bien, tout simplement parce que l'enfant, à ce moment-là, sait très bien que ce n'est pas le comportement attendu d'un caregiver. Ce n'est pas le comportement attendu de la part d'un adulte qui accompagne l'enfant vers la connaissance, vers la maîtrise de ses émotions, vers surtout la connaissance de soi. Et lorsque l'adulte a ce geste, qui ressemble à un geste vengeur, cela crée non pas tant de l'apprentissage pour l'enfant que de la sidération. Il va quelque part se dire, même s'il le formule peut-être pas comme ça intérieurement, comment est-ce qu'il peut me faire ça ? Cette sidération n'est pas apprenante, elle est plutôt perturbatrice. Parce que quelque part, l'enfant a l'attente que l'adulte soit exemplaire, qui lui montre comment s'en sortir dans des situations de tension, dans des situations de stress, qui pourraient pousser à mordre. Donc il y a une situation où il y a tellement de défis parce que l'enfant ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment se sortir d'une situation que hop, il attrape le bras d'un autre enfant ou sa main ou même il. Moi, j'ai déjà vu un enfant mordre dans le dos, vraiment parce qu'il est exaspéré. Je donne un exemple. L'enfant est en train de construire une maison avec des Legos. Et puis, il a choisi tous les Legos dont il avait besoin. Il a fait un petit tas à côté de lui. Et puis, il y a un autre enfant qui a aussi besoin des Legos et qui vient les lui prendre un par un. Et puis, cet enfant-là lui dit « Non, non, j'en ai besoin. Non, tu me les laisses, ils sont à moi. Non. » Et puis, finalement, l'enfant continue à prendre les Legos parce qu'il y a une espèce d'enjeu de territoire sur le jeu à ce moment-là. Et n'étant pas entendu, l'enfant va mordre. Et comme pour essayer de trouver une issue à son problème, qui soit radicale et qui finalement vienne d'un endroit qui n'est pas maîtrisé en tant que tel, parce que ce n'est pas forcément le désir de l'enfant de faire mal, mais son désir et son besoin, c'est un besoin de respect, c'est un besoin de tranquillité, c'est un besoin de ne plus se sentir intrusé comme ça par l'autre enfant qui vient se servir dans son tas de Lego. Ça, c'est un exemple qui nous permet juste de voir ce qui peut déclencher cette forme d'exaspération chez un enfant qui pourrait mordre. La morsure, ça intervient parfois chez le tout petit, vraiment à la crèche, à 18 mois, à 2 ans, des enfants qui mordent pour exprimer qu'il y a une limite qui pour eux a été dépassée ou qu'ils se sentent intrusés par l'autre et qui essayent de faire respecter leur territoire d'action ou leur territoire de limite physique. Donc, bien sûr, c'est inapproprié parce que ça fait mal, parce que c'est dangereux, parce que c'est de la souffrance pour les deux enfants. Donc, le but, ça va être de sortir de cette réaction et de rentrer dans une autre forme de savoir-faire pour faire valoir ses limites et son périmètre. Bien sûr, le but chez le jeune enfant, c'est de pouvoir verbaliser. Nous sommes des humains, donc nous avons cette capacité à verbaliser nos besoins qui va naître petit à petit avec la naissance du langage articulé, langage oral chez le tout petit. Et puis, il va falloir que l'enfant apprenne à élaborer des demandes qui soient entendables par autrui. Et ça va prendre vraiment un peu de temps parce qu'il faut faire un drôle de tri entre ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe pour l'autre, quels sont les tenants et aboutissants de la situation et comment je peux poser une demande qui soit entendue. La plupart des adultes ne savent pas élaborer ce genre de construction de manière adéquate et appropriée. C'est pour ça que nous avons autant de difficultés relationnelles. Personnellement, je ne savais pas faire. J'ai dû aller apprendre la communication non violente. J'ai dû faire un travail thérapeutique de connaissance de moi, de repérer ce qui se joue à l'intérieur de moi, ce qui se joue dans mes relations pour pouvoir apprendre petit à petit à les nommer, à en parler, à pouvoir exprimer ce que je suis et mes besoins d'une manière qui soit entendable. Donc, je, évidemment, encore une fois, ne jette pas la pierre à toutes celles et ceux qui sont en apprentissage de cela. Mais juste, je pointe le fait que nous sommes dans une culture de la violence, comme je l'ai déjà exprimé, et donc nous sommes ni dans une culture de la médiation, ni dans une culture de la paix, ni dans une culture où le savoir-faire relationnel est très développé. Il y a bien sûr des acquis qui sont là et je ne nie pas les évolutions sociales et sociétales qui nous mènent vers peut-être plus de considération les uns pour les autres, plus de savoir-faire et de compétences diplomatiques et peut-être une culture qui sert de mieux en mieux les individus et le collectif. Espérons en tout cas que ça va dans ce sens. Des fois, on a des raisons d'en douter. Mais néanmoins, à la base de notre culture, il y a cette violence éducative ordinaire, il y a cette relation dominant-dominé qui finalement entrave notre compétence et nos savoir-faire en termes relationnels. Donc pouvoir poser d'une manière ajustée un besoin, eh bien, ça s'apprend. Et lorsque l'on démontre à l'enfant par la violence qu'il ne faut pas être violent, eh bien finalement on est vraiment à côté de ce qui est nécessaire pour que l'enfant apprenne ces compétences-là. Donc la seule manière de faire avec un enfant qui mord, par exemple, ce serait de pouvoir exprimer que, bon, d'une part poser un interdit absolu de faire mal, mais si l'interdit est absolu, eh bien, il faut absolument que je le respecte moi aussi en tant qu'adulte. Je ne peux pas poser un interdit absolu de faire mal à l'autre et moi-même faire mal à l'autre. C'est complètement incohérent et c'est perturbant pour l'intelligibilité de l'enfant. Donc, il va falloir être cohérent et congruent avec ce que nous avançons. Donc, s'il y a un interdit absolu de faire mal, il est hors de question de faire mal soi-même. C'est la seule manière pour que l'enfant l'intègre. L'enfant va intégrer ce que nous faisons, bien plus que ce que nous disons. Donc, si on dit à l'enfant, mais qu'est-ce que tu as fait encore? Tu fais mal à ton petit frère, j'en ai vraiment marre que tu fasses ça. Et on lui donne une fessée pour lui faire comprendre qu'on est très mécontent et qu'il ne doit pas faire ce qu'il est en train de faire, eh bien, c'est absolument absurde sur un plan. Parce qu'on est en train de dire à l'enfant deux choses contradictoires. D'une part, on lui dit, c'est pas du tout acceptable que tu embêtes ton petit frère, que tu lui fasses mal. Et d'un autre côté, on lui fait mal, à notre tour. Donc c'est comme s'il y avait deux parties de nous à ce moment-là, comme s'il y avait la partie adulte qui mène une veille, une vigilance sur les comportements de l'enfant pour l'accompagner vers des comportements appropriés. Et il y a une autre partie de nous qui est comme un enfant, qui a reproduit les gestes de l'enfant, c'est-à-dire je fais mal. Je fais mal comme un enfant peut faire mal parce que il n'a pas encore acquis les outils et le langage qui lui permettraient de faire valoir ses besoins sans faire mal à l'autre. Donc, ce qui serait approprié dans cette situation où un enfant fait mal à un autre enfant, le mord par exemple, ce serait de reconnaître d'abord son impuissance et sa colère. Je dis, bah, je vois que tu es vraiment... T'es très en colère et je vois qu'il y a quelque chose qui te va pas du tout. En revanche, il n'est pas du tout possible de mordre, de faire mal. Ça fait très mal quand tu fais ça. La personne, elle a très mal quand tu fais ça. Et ça, c'est absolument interdit. Tu vois, moi, je te fais pas mal. Je veux pas que quelqu'un te fasse mal, mais je veux pas non plus que tu fasses mal aux autres. Et ça, il faut être très très clair et très cohérent avec ça. Donc une fois que ça s'est posé, eh bien reconnaître, donc ça veut dire reconnaître ce que l'enfant est en train de traverser. Donc ça veut dire se mettre à côté de lui, de son côté. Et voilà, je vois que là, il y a quelque chose pour toi qui est très compliqué, qui est très difficile à gérer. Mais en même temps, la manière dont tu t'y prends pour faire valoir tes besoins, ça va pas du tout. Donc bien sûr, on ne lui dit pas comme ça parce que c'est trop compliqué, mais vraiment on lui dit, voilà, moi, je te fais pas mal, je veux que personne te fasse mal, mais je veux aussi que toi, tu ne fasses pas mal aux autres. Ça, c'est très important. Ça n'est pas possible que tu fasses mal aux autres, toi non plus. Comme ça, tout le monde est en sécurité. Et ça, c'est le plus important, que tout le monde soit en sécurité. Et puis, après, on peut aussi essayer de médier. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Je vais reprendre l'exemple des Legos. Eh bien, on pourrait demander aux enfants présents, qu'est-ce qui se passe? Oui, ben, il a pris tous les Legos et moi aussi, je veux construire une maison comme lui. Et l'autre va dire, oui, mais moi, j'avais choisi ce jeu avant et j'ai besoin de tous ces Legos. Et lorsqu'il me les prend, eh bien, je ne peux plus construire ma maison. Donc, je ne suis pas content. Il n'a qu'à choisir une autre activité. Donc au passage, je vous glisse que dans une classe Montessori, ça ne peut pas se passer parce qu'il y a une seule activité à la fois, un seul exemplaire, et que les enfants, c'est une règle de base dans une ambiance Montessori, doivent attendre que l'activité soit revenue à l'étagère pour pouvoir l'utiliser à son tour. Donc ce sont des activités qui s'utilisent individuellement en autonomie. Et comme les enfants le savent, leur petit territoire d'action, leur petite bulle qu'ils font avec le matériel est totalement préservée. Ça, c'est vraiment un des appuis de cette pédagogie qui est très intelligent parce que ça permet d'éviter ce genre de conflit. Je n'imagine même pas la jungle relationnelle et émotionnelle que vivent des enfants lorsque il y a un coffre à jouer qui est déversé au milieu d'une salle et qu'ils doivent jouer des coudes pour avoir accès au jeu sans contour ni limite, et ça c'est vraiment très insécurisant. Donc le fait de structurer et d'organiser l'environnement pour que les enfants soient totalement sereins lorsqu'ils utilisent un matériel, et bien sûr ça évite beaucoup de problèmes. Donc je vous dis juste ça au passage pour vous dire que mon exemple de Lego, vous ne le trouverez pas dans une classe Montessori par exemple. Donc voilà, les enfants ont tous les deux un besoin qui va se télescoper. Et là, on va médier, on va dire, bon, ben, comment on pourrait faire? Parce que toi, tu as besoin de tous ces Legos. Alors, est-ce que tu as vraiment besoin de tous les Legos? Ben non, mais moi, là, je fais une maison avec tous les Legos blancs et tous les Legos verts et tous les Legos rouges. C'est les couleurs que j'ai choisies. D'accord. Donc toi, tu es en train de me dire que tu as besoin de tous les Legos rouges, vert et blanc. Est-ce que c'est ça? Et toi, qu'est-ce que tu as envie de construire? Ben moi aussi, je veux construire une maison. Et puis moi aussi, je voudrais des Legos blancs parce que sinon, ben, ma maison, elle n'est pas comme je veux. D'accord. Donc toi, tu aimerais aussi construire une maison. Tu veux bien utiliser d'autres couleurs, c'est ça? Oui, je veux bien utiliser d'autres couleurs, mais par contre, je veux des blancs. Parce que sinon, eh ben, ma maison, elle ne sera pas comme je veux. D'accord. Donc, comment on pourrait faire? Est-ce que toi, tu serais d'accord de partager un petit peu les Lego blancs pour qu'il en ait? Alors, moi, je... Non, mais moi, j'avais choisi ce jeu avant. Moi, je peux lui en donner trois. C'est tout. Alors, l'autre, il va peut-être dire, oh, ben, trois, c'est pas beaucoup. Mais bon, d'accord. Ou alors, il va... Ou alors, c'est une autre solution qui va émerger. C'est-à-dire que laisser les enfants créer leurs solutions, c'est très intéressant de les écouter. Peut-être aussi on peut dire, peut-être tu peux attendre qu'il ait fini de construire sa maison, puis faire la tienne après quand il aura terminé et puis que ce sera ok pour lui de la démonter. Qu'est-ce que tu en penses? Et peut-être l'enfant va dire, bah oui d'accord, mais je ne sais pas quoi faire, est-ce que tu peux m'aider à trouver une autre activité? Enfin, tout est, à partir du moment où il y a de l'écoute, où il y a de l'empathie, où il y a de l'accompagnement, tout est possible en fait, c'est ça mon expérience. J'ai toujours vu des enfants en recherche de solutions constructives. Ils sont très, très fluides, très, très agiles pour aller dans des solutions constructives dès lors qu'ils sont accompagnés dans ce sens-là. Et donc, prêts à renoncer, évidemment, à la violence qui ne les satisfait pas non plus. Moi, j'ai vu des enfants très déconcertés d'avoir fait mal à un autre enfant. En général, ils sont profondément désolés d'avoir fait mal à un autre enfant. Alors ça dépend de l'âge, parce que quand ils sont tout petits, une morsure, enfin je sais pas si les mamans qui allaitent ont déjà eu leur bébé qui leur mord le bout du sein, mais le bébé il le fait même pas sciemment et intentionnellement. Donc même parfois il le vit comme une expérience, il voit qu'il mord et nous on fait un bond et on pousse un cri et c'est trop intéressant. Ben, qu'est-ce qui... Tiens. Il y a un endroit, il y a un bouton là, j'appuie et ça fait ça. Donc même, il va peut-être retester deux ou trois fois. Et là, c'est pareil, il va falloir lui dire fermement, ça ne va pas être possible du tout. Tu ne vas pas pouvoir continuer à me mordre le sein parce que là, ça me fait un mal de chien. Donc ça, c'est non. Et là, on pose vraiment notre limite sans équivoque. On n'est pas en train de chercher des raisons de dire oui ou non à ça. C'est juste non. C'est juste non, ça n'est pas possible, ça fait mal et c'est non. Donc, le très jeune enfant, il n'est pas dans la perversité, comme le prétendent certains, de faire mal à l'autre. Je me demande quel genre de lunettes ont sur le nez les gens qui voient de la perversité chez un tout petit, quoi. Ça veut dire que si on est capable de voir le tout petit dans une perversité, c'est qu'on a la perversité inscrite en nous, en fait, qu'on a cette cartographie et ça vaut le coup de se... demander d'où ça vient, parce que le tout petit, il n'y a qu'à l'observer pour voir que lui, il est juste dans l'expérience, dans l'exploration. Et que si effectivement, il déploie des comportements qui sont contraires à la bonne qualité d'une relation, peut-être qu'il a absorbé ce comportement chez l'un de ses caregivers, ou peut-être aussi qu'il est juste en train de tester des choses, hein, d'expérimenter des choses. À nous de l'accompagner vers ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, mais sûrement pas en lui faisant subir quoi que ce soit. Donc, sur le principe de la punition, j'y reviendrai dans un prochain podcast aussi. Moi, là, j'y vois de la perversité, justement, dans la punition. C'est-à-dire, pour que tu sois une bonne personne, je te fais mal, je te fais souffrir. C'est-à-dire, je te soumets à quelque chose qui t'est désagréable. Je te prive de dessert, je t'empêche de voir tes amis, ou je t'envoie tout seul dans ta chambre, dans un isolement que tu n'as pas envie de vivre. Ça, c'est de la perversité, oui. Effectivement. Mais j'ai un petit enfant qui va jeter pour la 10e fois sa cuillère de sa chaise haute. Ça s'appelle pas de la perversité, ça s'appelle de l'expérimentation. C'est hyper intéressant sensoriellement de jeter une petite cuillère du haut de la chaise haute. Peut-être qu'il faudrait essayer de temps en temps de le refaire pour voir ce que ça fait dans la peau de l'enfant. Et puis de voir qu'il y a un adulte qui réagit à ça en plus. Que là, on peut appuyer encore sur les boutons de la télécommande et qu'il se passe quelque chose qui est vachement intéressant. Donc, arrêtons de voir les enfants tels que nous croyons qu'ils sont, c'est-à-dire tels que nous sommes. Arrêtons de voir les enfants tels que nous sommes, parce que tout ce que l'on dit ou tout ce que l'on perçoit, ça vient de nous, de nos projections. On ne parle que de soi, on ne projette que ce qui est en nous. Donc, pour pouvoir voir l'enfant tel qu'il est, ça veut dire vraiment abandonner un très grand nombre de schémas préétablis à l'intérieur de nous et qui voudraient nous faire croire qu'un enfant, c'est cet être mal foutu, inadapté à la vie, incompétent, ignorant, mal poli, qui ignore tout des conventions. Alors, ça, c'est peut-être en partie vrai. Si les conventions sont éloignés de ce qu'il va faire spontanément. Mais voyons l'enfant avec des yeux d'explorateur, avec des yeux émerveillés, avec des yeux amoureux de la vie, avec des yeux aimants. Soyons curieux de ce qui émane de lui. Et ça va nous aider à l'accompagner d'une manière qui soit juste. Parce qu'on va se déshabiller de nos a priori et de nos préjugés pour être juste tout près de lui, avec lui, dans son réel et dans sa réalité. Ça demande aussi que nous-mêmes, nous ayons fait un peu ce travail d'exploration de notre enfant intérieur, de apporter le même intérêt à notre enfant intérieur. Ça veut dire revisiter ce qui a pu se passer pour nous, pour que l'on ait tel ou tel comportement, ou pour qu'on ait tel ou tel ressenti, ou pour qu'on ait telle ou telle croyance ou conditionnement qui se soit ancré en nous. C'est important. Moi, ça m'arrive encore, malgré tout ce travail que j'ai fait, d'avoir des petites phrases automatiques comme ça qui sortent de je ne sais où, du fin fond de mon histoire, et qui sont des petites phrases toxiques dans la relation. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai dit à une personne, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ça l'a énormément blessée que je dise ça. Et c'est vrai que cette petite phrase, elle vient du fond des âges, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, ma pauvre fille? Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est vraiment sorti complètement spontanément. Et ça fait partie voilà, de tous les conditionnements qui nous habitent clandestinement, qui sont là à l'intérieur et qui peuvent ressurgir à tout moment. Et avec les enfants, ça vient très 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 vite. Parce qu'on a été ces enfants qui ont entendu toutes ces petites phrases toxiques ou assassines qui sont dites mine de rien, en fait, hein, et qui n'ont jamais tué personne, comme on dit, ben heureusement. Heureusement que notre éducation ne nous a pas tués, quoique c'est l'humoriste Élodie Poux qui rappelait dans un petit sketch télévisé qu'il y a quand même 2 enfants par jour qui meurent sous les coups soi-disant éducatifs de leurs parents. Alors évidemment, personne ne peut défendre ce type d'éducation, entre guillemets, mais quand on dit ouais, une bonne fessée, ça n'a jamais tué personne, ou les phrases que j'ai entendues, mes parents étaient sévères, mais j'en suis pas mort. Certes, certes, mais peut-être il y a une partie de nous quand même qui meurt avec ça. Vous imaginez, je vous donne un exemple hein, très rapidement. Lorsque un professeur de chant, par exemple, vous dit oh là là, qu'est-ce que tu chantes faux, je ne sais pas ce que je vais faire de toi, ben, ça peut avoir pour conséquence que plus jamais de votre vie, vous ne chantiez et vous ne vous croyez légitime pour chanter. Plus jamais de votre vie. Il y a des gens, moi qui reçois beaucoup de stagiaires dans mes formations, ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre un adulte qui dit « Ah mais moi ça, j'ai renoncé à tout jamais. Parce qu'il y a eu un adulte, à un moment donné, qui a fait une remarque au passage et qui a complètement fait mourir, hein, qui a tué tout un pan des possibles qui auraient pu se déployer dans la vie de la personne. Lorsque tu renonces à chanter parce que quelqu'un t'a dit « Oh là là, tu chantes faux, qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Eh bien, tu peux, à un endroit de ton cerveau, complètement renoncer à l'expression du chant dans ta vie personnelle. Ce n'est pas pour toi. Tu as entendu que ce n'était pas pour toi de chanter et tu te l'interdis pour le reste de ta vie parfois, sauf si tu en prends conscience, que tu travailles dessus et que tu te réhabilites toi-même dans la possibilité de chanter. C'est juste pour vraiment mesurer, encore une fois, à quel point être un caregiver compétent, c'est vraiment déployer des savoir-être et des savoir-faire qui sont appropriés aux besoins de l'enfant, à ses besoins d'être accueilli, d'être reconnu, d'être respecté dans ce qu'il est, et à ses besoins aussi d'acquérir d'autres formes d'intervention que la réaction émotionnelle qui va le pousser peut-être à frapper ou à mordre ou à casser quelque chose. Et pour qu'il puisse sortir de cette réaction émotionnelle, nous devons l'emmener dans l'action, une action élaborée, donc quelque chose de constructif. Et la médiation nous y aide. Apprendre à médier, c'est vraiment extrêmement important parce que ça va nous permettre d'accompagner les enfants un peu sur le chemin d'une relation élaborée. Donc d'une relation où j'ai des émotions et des besoins qui peuvent mener lorsqu'ils sont échangés avec l'autre et avec ses propres relations et ses propres besoins, à des solutions gagnant-gagnant, à des solutions constructives. Mais ça, je vais y revenir dans un prochain podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.